RVA, l'invité de la rédaction.
Notre invité du mois au studio de RVA, Marc Battard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc reconnu comme le vétéran de l'alpinisme français, mais aussi le sprinteur de l'Everest pour avoir gravi son sommet en moins de 24 heures. Et en mars prochain, vous prévoyez de repartir à la conquête de ce sommet du haut de vos 70 ans. Avant de parler en détail de toute cette prouesse et de votre actualité aussi en lien avec la présidentielle, mais on y reviendra, j'aimerais parler de vos débuts dans l'alpinisme. Comment vous avez découvert cette passion pour la montagne ?
Cette passion, je l'ai découvert à Luchon, dans les Pyrénées, quand j'étais adolescent. J'avais une adolescence difficile et mes parents avaient trouvé une école du bois qui me convenait dans les Pyrénées et j'y ai découvert la montagne. Donc j'ai découvert une passion qui m'a sauvé la vie et qui aurait pu me tuer.
Oui, parce qu'on va y venir. La montagne, surtout sur de tels sommets, ça peut être très dangereux aussi. Vous êtes reconnu aussi comme un recordman, puisqu'on l'a dit, dès 23 ans, vous étiez le plus jeune alpiniste à atteindre 8000 mètres d'altitude sans oxygène. Et à vos 37 ans, vous montez en solitaire l'Everest en moins de 24 heures. D'où vous vient cette folie des grandeurs, finalement? Qu'est-ce qui vous anime quand vous pensez à ce genre de prouesse?
En fait, j'ai une contradiction que j'assume. Hein. Je suis contre les records et j'ai fait des records. Mais en fait, c'est toujours des records que j'ai trouvés par le biais de l'amour que j'ai pour la montagne. Comme j'ai une condition physique très très bonne en général, bien sûr, et mes professeurs de gym, quand j'étais gamin, voulaient me motiver à faire de la compétition. Et moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Et la chance que j'ai eue, c'est de découvrir la montagne, où j'ai pu vraiment dépenser mon énergie et puis trouver des objectifs. Donc ça a été, j'étais le plus jeune à faire en 8000 mètres en 75. Après, quand j'ai compris... grâce à une expédition auvergnate, donc là je pense qu'à l'écoute il y en a qui vont se reconnaître, en tant que guide j'ai fait une expédition sur un 8000 en hiver, on a été les premiers Français à faire un 8000 mètres en hiver, et lors de cette ascension c'est là que j'ai compris que je pouvais faire l'Everest sans utiliser de bouteille d'oxygène, parce que ça c'est important, on n'en parle pas assez, et que je pouvais faire l'Everest en moins de 24 heures, voilà, donc l'idée de faire l'Everest en moins de 24 heures, ça m'est venu lors d'une expédition que j'ai fait avec des Auvergnats au Delaguiri. En 86.
Et on y reviendra sur votre relation avec cette terre d'adoption. Mais j'aimerais revenir surtout sur vos anecdotes, sur vos ascensions. Est-ce que vous en auriez une à nous partager? Peut-être l'une des plus insolites, voire même la plus dangereuse, où vous auriez pu risquer votre vie?
La plus engagée que j'ai faite, c'est certainement le pilier ouest du Makalu en solitaire en 18 heures. Mais sinon... je pense plus, par exemple, à une ascension que j'ai faite avec des Auvergnats, justement les Auvergnats avec qui j'avais fait le Delaguiri. Ça s'appelait le Tamsiarkou. On avait réussi une très très belle première au Tamsiarkou. Mais la montagne n'est pas dangereuse. Souvent on dit la montagne est dangereuse, c'est nous les hommes qui la respectons pas assez. Donc quand il y a des accidents, c'est que l'être humain a fait des erreurs.
Et effectivement, vous êtes engagé pour la sécurité en montagne et même... indirectement, donc l'environnement aussi, puisqu'on le voit, le paysage montagneux a fortement changé, et vous le voyez encore plus depuis les sommets.
Oui, tout à fait, oui. Alors moi, je m'engage, effectivement, j'ai un parcours où je m'engage beaucoup plus sur la sécurité, ça vient de mon métier de guide, je pense, parce qu'on avait, je l'ai toujours, mon métier de guide, je ne l'exerçais plus, ou très très peu, mais ce métier que j'ai fait pendant presque 40 ans, c'est formidable, parce qu'il y a des gens qui nous payaient et qui nous confiaient leur vie. Donc forcément, ça c'est un point très très important. Mais c'est l'entreprise, paradoxalement, qui m'a donné l'envie d'aller encore plus loin. Parce que dans notre formation de guide, il n'y a pas suffisamment d'anticipation sur le risque. Et on voit actuellement, c'est là que vient mon engagement maximum, c'est qu'il y a beaucoup trop d'accidents de professionnels avec des clients. Et ça, c'est inadmissible. Alors, je ne jette pas la pierre à mes confrères, surtout pas. Tout simplement, je mets le doigt là où ça fait mal et faire évoluer la sécurité en montagne, c'est important.
Et pour revenir sur vos challenges, entre guillemets, qu'est-ce qu'on ressent une fois qu'on a réussi à gravir les toits du monde, les plus hauts toits du monde? J'imagine que c'est encore plus que de l'adrénaline.
Oui, mais justement, là, je suis à quelques semaines maintenant. Ça approche très. Ça fait déjà 4 ans que j'ai eu ce projet de refaire l'Everest sans utiliser d'oxygène artificiel pour mes 70 ans. forcément, je me retrouve dans la même situation que dans laquelle j'étais justement en 88, lorsque j'avais le projet de faire l'Everest en moins de 24 heures. En fait, très peu de gens y croyaient. Et maintenant, c'est un peu la même chose. C'est peu de gens, je pense que je peux faire l'Everest sans oxygène en moins de 24 heures. Sans oxygène, mais là, je vais faire en 3 ou 4 jours, mais sans utiliser bouteille d'oxygène. Alors, pour donner une idée de l'importance du défi, c'est que la personne la plus âgée qui a fait l'Everest sans utiliser de bouteille artificielle, c'est un Italien qui s'appelle Abel Blanc, qui l'a fait à 55 ans. Alors, forcément, les médias vont, si jamais je réussis au mois de mai à faire l'ascension à 70 ans, forcément, je vais battre le record très, très largement. Mais à la base, c'est pas mon but principal.
Parce que du coup, vous le dites, c'est en mars, du coup, fin mars, que vous partez pour cette ascension. Mais donc, pour, entre guillemets, célébrer vos 70 ans. Et comme vous le dites, vous seriez le plus âgé à monter ce toit du monde et sans oxygène, comme vous le disiez. Comment, finalement, vous vous préparez physiquement pour ça et dans quel état d'esprit, là, vous partez?
Alors, je prépare ça depuis 4 ans maintenant. Donc, entre-temps, je suis allé au Kilimandjaro, je suis allé à la Concagua, en Amérique du Sud. On est allé à l'Annapurna au printemps dernier. Donc, ça, c'est une préparation physique et mentale. Et voilà, donc là, maintenant, je suis prêt. J'arrive au bout. Donc, je suis dans un état très, très positif. Sauf qu'on a été un peu perturbé par le Covid, mais bon, on n'est pas les seuls. Hein, donc, on va pas se plaindre. Il y a quand même des gens qui sont beaucoup plus couverts par ce malheur qui arrive sur la planète ces deux dernières années. Donc, si tout va bien, on sera prêt à faire le sommet de l'Everest à la mi-mai. On va se préparer. Et puis, il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Malheureusement, j'avais une cordée donc, qui est toujours à peu près la même, passant Sherpa, qui a fait 13 fois l'Everest avec de l'oxygène, mais là, il m'accompagne sans oxygène. Et puis, on a eu la disparition de notre compagnon de cordée, qui est Mohamed Ali, qui a disparu au K2 il y a un an. Et il devait être remplacé par son fils. Et malheureusement, son fils a des problèmes physiologiques. Enfin, il a des problèmes physiques qui l'empêchent de venir avec nous. Et finalement, c'est très beau parce que c'est mon fils qui va venir. Et Alan. Et puis le fils de Passang aussi. Ça, c'est tout récent. Il y a une quinzaine de jours, Passang Sherpa, qui m'accompagne, m'a demandé, puisque ton fils vient, est-ce que le mien ne pourrait pas venir? Alors j'ai dit, mais c'est génial. Donc on sera deux... somniteurs, hein, comme on dit, les gens qui ont fait l'Everest, on nous appelle les somniteurs de l'Everest, et on va y aller avec nos fils.
Effectivement, c'est une belle symbolique. Et du coup, est-ce que vous pensez que ce serait l'un de vos derniers gros challenges ou vous pensez pas à l'avenir?
Oui, là, à ce niveau-là, c'est le dernier. Bon, il faut jamais dire le dernier, mais oui, c'est le dernier. Il y a d'autres challenges, comme en ce moment, enfin, je pense qu'on va en parler. J'en fais un avec le plus jeune candidat des élections présidentielles. Ça en est un aussi, ça en est un autre, mais c'est un Everest aussi.
Effectivement, on va en parler, mais avant, j'aimerais revenir sur votre rapport à la région, puisque vous le disiez, ça fait 15 ans maintenant que vous habitez dans l'Allier. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous installer ici et quel est votre attachement pour cette région? Vous le disiez, rien que... ça vous a poussé aussi dans vos randonnées, enfin voilà, quel rapport vous avez à la région?
Alors l'idée, je cherchais à poser mes valises quelque part il y a 15 ans, donc j'habitais Paris, j'avais quitté la montagne déjà, et j'habitais Paris et je voulais poser mes valises quelque part et finalement volontairement j'ai cherché à m'installer dans le centre de la France. Alors peut-être que inconsciemment j'étais un peu attiré par Issoire quelque part, donc proche d'ici, parce que ma mère était originaire, est une famille auvergnate de Saint-Étienne-sur-Usson. Donc j'ai un peu cherché à Saint-Étienne-sur-Usson, et puis finalement j'ai trouvé là où je suis, donc dans l'Allier, à la limite du Puy-de-Dôme et de l'Allier, et de la Creuse.
Parce que c'est vrai, on pourrait se dire, sans offenser les Auvergnats, hein, je ne vais pas m'attirer les foudres, mais ce ne sont pas les plus hauts sommets pour un alpiniste, et pourtant, ça vous a attiré quand même.
Oui, donc mon but est de m'installer dans le centre de la France pour une question logistique, parce que j'ai de la famille un peu de partout, donc c'est pratique d'être dans le centre. Et puis c'est très beau. Et puis l'avantage aussi, c'est très beau et puis c'est pas cher, c'est pas très cher. Et bien sûr, je me serais pas installé à Moulins. À Moulins, c'est beaucoup trop plat. Donc là où je suis dans les Combrailles et donc j'ai des petites montagnes.
Et un autre point maintenant d'actualité vous concernant, on y vient, mais dans un tout autre registre. Hein, Martin Roca, le plus jeune candidat à la présidentielle, il a seulement 22 ans et vous soutenez aujourd'hui sa campagne. Qu'est-ce qui vous a conquis dans ce projet, puisque vous l'aidez dans sa campagne en plus?
Alors j'ai connu Martin Roca au travers des réseaux sociaux au printemps dernier et ça m'a plu. Donc je lui ai dit, viens chez moi une semaine. Je lui ai organisé au mois de juillet 3 rendez-vous avec des maires. Donc je l'ai accompagné, je lui ai présenté des mères et j'ai vu qu'il était hyper crédible. C'était, sa démarche était très très sociétale, très très intéressante. Et donc je lui fais rencontrer aussi des gens pour le tester, pour vraiment. Et il a beau avoir que 22 ans, il est extrêmement mature. Et son projet n'est pas du tout de devenir président de la République. Il est de vraiment faire avancer la Constitution. Et alors lui, il en parlerait beaucoup mieux que moi. La démarche de Martin Rocard n'est pas de droite ou de gauche ou du centre. Elle est vraiment pour faire avancer les choses, pour que demain, espérons, on ait des gens qui aillent un peu plus voter, plus de jeunes et de moins jeunes qui aillent voter. Il y a, je veux dire, nos politiques, les gens qui nous dirigent sont quand même ont été élus avec une minorité de Français. Et donc, je pense que si demain, Martin Rocard est vraiment... si on arrive par miracle à avoir les 500 signatures, donc c'est sûr, on a beaucoup de maires qui nous ont promis des parrainages, parce qu'ils sont frileux, hein, personne n'a envie de s'afficher. Mais quand ils ont compris la démarche de Martin, ils sont fiers de participer à cet acte sociétal.
Oui, c'est ce que vous dites, hein, finalement, c'est cette symbolique d'inciter de plus en plus les jeunes... Alors peut-être à s'intéresser à la politique, mais surtout là, voter, puisque nous sommes quand même en période d'élection présidentielle.
Tout à fait. Alors ça, c'est mon but principal. C'est, je me dis que si Martin arrive à obtenir ses 500 signatures, forcément, ça fera le buzz. Et ça permettra à des jeunes, des moins jeunes qui se désintéressent de la politique et pour cause, de regarder un peu de plus près. Et voilà. Et alors, bien sûr, on me dit souvent, vous les journalistes, on nous dit souvent, surtout à Martin, Mélenchon, il a ça aussi dans son programme. Effectivement, il a ça. Mais seulement, même s'il était élu, est-ce qu'il aura les moyens d'appliquer son programme? C'est pas forcé. Donc, il faut reprendre les choses à la base. Et alors, il faudrait que vous invitiez Martin Rocard parce qu'il serait beaucoup plus apte à parler de ce problème que moi.
Et vous disiez que Martin Rocard va donc revenir dans la région auvergnate, si je ne dis pas de bêtises, pour ces histoires de parrainage auprès des maires auvergnats.
Tout à fait. Alors, on est parti le 10 janvier, on est parti de Paris avec une caravane. Donc, c'était ma caravane de l'expédition Everest 1922. On a tout changé le design de la caravane et on est parti faire le tour de France. Donc, on est parti le 10 janvier de Paris, place de la République. On est allé dans le Perche, en Bretagne, dans le Limousin, dans le Sud-Ouest. Là, on est revenu ici quelques jours. Là, Martin est remonté à Paris pour faire quelques interviews et il revient dans 3 ou 4 jours. Et on va continuer par la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère. Enfin, tous des endroits où j'ai des contacts personnels, lui aussi. Et bien sûr, on dépense beaucoup d'énergie pour que vous, les médias, parliez pour que plus de maires... Parce que si demain, tous les maires étaient au courant de son projet, mais il récupère 1000 signatures d'un seul coup.
Et je vous laisse le mot de la fin. J'ai tendance à demander à mes invités de clôturer l'interview en vous laissant diffuser le message que vous voulez, que ce soit au sujet de... que ce soit Martin Rocard ou vous, votre ascension à venir.
Je dois dire, en ce moment, je fais 2 Everest. Hein. L'accompagnement de Martin Rocard pour obtenir ses 500 signatures et puis mon Everest à moi. Je dois dire que l'Everest de Martin Rocard est beaucoup plus important que le mien.
Bon, en tout cas, merci beaucoup Marc Bâtard pour cette interview. C'était un plaisir de vous rencontrer en
merci.
Personne. Et puis, on vous souhaite beaucoup de courage pour vos 2 Everest.
Merci beaucoup.